Bonjour et bienvenue dans Altitude. Elle couvre près du tiers de notre territoire et semble éternelle comme nos glaciers à l'époque. Nous nous intéressons aujourd'hui à nos forêts et plus spécifiquement aux forêts d'altitude qui subissent depuis quelques années les effets du changement climatique. Verra-t-on bientôt des arbres à 3000 ou même 4000 mètres comme en Himalaya ou dans le nord des Andes? Eh bien, notre invité cet après-midi est un spécialiste de la question. C'est le directeur du jardin botanique alpin Flore Alpes à Champé en Valais qui organise précisément depuis hier et jusqu'au mois d'octobre une exposition sur ce thème. Bonjour Jean-Paul Thoria.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes également le directeur du Centre Alpien de Phytogéographie. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Oh, le Centre Alpien de Phytogéographie, c'est en fait la partie recherche qui est liée au jardin alpin de Champé dans le cadre de la Fondation Jean-Marcel Aubert. Qui gère ce jardin.
C'est la partie scientifique du jardin, quoi.
C'est la partie scientifique du jardin.
Lui évolue en général quelques étages au-dessus de nos forêts. Il sillonne les hauts sommets alpins avec son gros appareil photo en bandoulière. Un destin pas forcément tout tracé pour lui, puisqu'il y a 10 ans à peine, il n'avait jamais mis les pieds sur une haute montagne, ni même un glacier. Rencontre tout à l'heure avec le photographe d'origine belge Thomas Crowells. Il adore le noir et blanc et les faces plâtrées de neige juste après le mauvais temps. Bonjour François Maudou.
Bonjour.
Dans votre chronique tout à l'heure, vous nous parlerez de la peur.
De la peur, avec altitude, ça va bien ensemble.
Parfois, oui. Vous avez lu un bouquin qui s'appelle « Éloge de la peur ».
Éloge de la peur, oui, d'un auteur français, Gérard Guerrier.
C'est pas un pseudonyme ?
C'est pas un pseudonyme. Et qui n'a jamais eu peur en altitude ?
Ah bon, personne. On vous retrouve tout à l'heure vers 17h45.
On n'en parle presque plus, mais le mal des forêts continue à faire des ravages en Suisse, notamment dans les régions de montagne, comme ici, dans le canton d'Uri. Les gardes forestiers qui travaillent sur le terrain peuvent d'ailleurs en témoigner.
La situation est encore plus grave qu'en 1985-86, au moment où la mort des forêts était un événement médiatique. Aujourd'hui, on n'a plus d'argent pour la forêt et les politiciens ont peut-être d'autres priorités.
Dans son rapport publié aujourd'hui, l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage se montre très prudent. Il constate que la forêt ne va pas mieux, que la défoliation a même doublé depuis 1985, mais il affirme ne pas être en mesure de définir les causes du mal. Il s'abstient aussi de toute recommandation, une aubaine pour ceux qui cherchent à minimiser le problème. Pollution de l'air, changement climatique, il n'est pas facile d'établir les causes des dégâts aux forêts. Il n'est toutefois pas nécessaire d'avoir des preuves irréfutables pour prendre des mesures, estime l'organisation écologiste Greenpeace, dans un contre-rapport publié aujourd'hui également.
Dans notre rapport, nous mentionnons les indices qui montrent pourquoi la forêt va si mal. Tout ce que nous avançons n'est peut-être pas prouvé statistiquement, mais nous avons une grande liste d'indices qui montrent que la forêt va très très mal.
Dans certaines régions, la forêt ne joue plus son rôle de protection contre les avalanches et les éboulements. Et c'est là qu'il faut agir, estime Greenpeace. Avant qu'une catastrophe ne se produise.
Voilà, ça c'est une archive de notre téléjournal de la TSR à l'époque qui date du 9 août 1994. Elle a donc 25 ans, tout comme le Centre Alpien de Phytogéographie. C'est peut-être un hasard ou pas, Jean-Paul Thoria. On l'a entendu, il y est fait allusion au fameux rapport Sana Silva, qui est un inventaire fédéral de l'état de santé des forêts créé en 85, c'est-à-dire 9 ans avant cette archive. Tout ça vous a beaucoup préoccupé aussi à l'époque, j'imagine. Comment vont nos forêts de montagne aujourd'hui, mieux ou moins bien qu'en 94?
Alors, je ne pourrais pas vous répondre précisément parce que je ne suis pas forestier et c'est pas vraiment en fait tout à fait mon domaine de recherche. Mais de toute manière, le problème des forêts de montagne est toujours d'actualité. En tout cas, dans le cadre des changements climatiques, parce que maintenant, c'est peut-être plus la pollution de l'air qui va intervenir.
Ça, c'était l'objectif visé par Sana Silva.
Ça, c'était l'objectif visé par Sana Silva. C'était les années 80. On parlait de la mort des forêts, des pluies acides. On a les images des forêts de Tchécoslovaquie encore à l'époque. Ouais. Où il ne restait que des troncs, en fait, dressés, lugubres. Sur un ciel gris. Et actuellement, en fait, ce problème, on va pas parler peut-être de mort des forêts, mais en fait, il reste toujours un problème parce que avec, durant les 10-15 dernières années, on a quand même eu un certain nombre d'étés très secs. Et en fait, on constate...
Et très chaud.
Et très chaud aussi. Et on constate en fait que certaines de nos essences ne supportent pas très bien, on le sait, on le savait déjà depuis longtemps, mais maintenant en fait les faits sont là, des essences comme l'épicéa, c'est-à-dire le sapin rouge.
C'est la ce qui compose la majorité de nos forêts.
C'est l'espèce dominante parce qu'en fait on l'a beaucoup planté du point de vue économique, rendement économique. Donc elle constitue, je sais pas, 60-70% des arbres de nos forêts. On l'a beaucoup planté en plaine, c'est quand même une espèce d'altitude. Et bien cette épicéa est sensible au sec. Donc en fait un été sec l'affaiblit, et une fois affaibli, il peut être sujet à des attaques de ravageurs comme le bostrich. Et à ce moment-là, ça fait vraiment des dégâts. On a des périssements qui ne sont pas nécessairement ponctuels, mais qui peuvent en fait affecter des zones entières.
Là, on parle bien du changement climatique. En gros, la forêt n'aime pas trop le chaud, enfin certaines espèces, mais surtout n'aime pas trop l'absence de froid. C'est aussi comme ça qu'on devrait le formuler. Il y a moins de froid en altitude.
Alors, il y a aussi cet aspect-là. Alors, cet aspect de froid va intervenir au niveau du développement printanier. Ça, c'est un aspect important pour toutes les espèces, en fait, qui poussent à des étages, en fait, on va dire, au-dessus de 1500 mètres. Même, en fait, le hêtre pourrait être sensible de ce point de vue-là. Mais, par exemple, tous les conifères de ce qu'on appelle l'étage subalpin, c'est-à-dire la partie qui forme la limite supérieure de la forêt, comme le mélèze, la rolle, l'épicéa, ce sont des espèces, en fait, de régions froides, donc qui se sont adaptés à vivre avec le froid et qui, quelque part, ont besoin du froid pour leur fonctionnement physiologique.
On parlait de biodiversité, il y a un rapport assez alarmant ou alarmiste qui a été publié il y a quelques semaines sur le nombre d'espèces menacées de disparition ou déjà disparues. Là aussi, menace pour la biodiversité de nos forêts, de ce qui s'y trouve par rapport au réchauffement climatique.
Alors, une menace peut-être directe par le réchauffement climatique, on va peut-être pas le voir comme ça immédiatement, une relation de cause à effet.
Pas aussi immédiat que pour un glacier qui fond, quoi.
Voilà, non. Mais sur le long terme, oui, il y a une certaine menace, parce qu'en fait, de nouveau, il y a les espèces du froid. Alors, peut-être dans les forêts, les plantes, à part les arbres, il y a quand même des plantes herbacées, un sous-bois. Donc, peut-être ces espèces-là ne seront pas très affectées. Mais il faut penser aussi à ce qui pousse au-dessus de la forêt, c'est-à-dire aux espèces, aux plantes dites alpines. Et elles sont des espèces aussi du froid. Et donc, le réchauffement climatique va les affecter profondément. Elles vont remonter en altitude, mais bon, les montagnes sont coniques. Donc, plus on monte, moins il y a d'espace. Mmh. Et puis, la vitesse du réchauffement est très rapide. La vitesse de déplacement des espèces n'est peut-être pas aussi rapide que ça.
Ça va plus vite que la musique.
Ça va assez vite. Et puis il faut penser, il y a pas que les plantes, hein, il y a des animaux aussi. Il y a beaucoup d'invertébrés, d'insectes. Il y a des escargots, il y a des papillons, il y a toutes sortes en fait d'animaux qui aussi sont des espèces qui vivent dans ce milieu dit alpin et qui, en fait, sont affectées. Alors, on observe, par exemple, on a la chance d'avoir dans le parc national suisse des études qui ont été faites depuis très longtemps, depuis, en fait, sa conception. Et donc, on a des données sur des dizaines d'années et on constate effectivement que des espèces se sont déplacées en altitude, des escargots, par exemple, qui se sont déplacés de plusieurs centaines de mètres en altitude, mais qui, tout d'un coup, se trouveront peut-être bloqués parce que tant qu'il y a de la pelouse, l'escargot pourra gentiment monter, mais quand il arrive au pied de la paroi rocheuse...
Ouais, il y aura une limite naturelle, géologique.
Il y a des limites géomorphologiques qui vont intervenir. Et c'est la même chose pour des plantes. En fait, des graines peuvent être déplacées, poussées par le vent, glissées sur la neige, transportées par des fourmis. Mais à un moment donné, si tout d'un coup il faut franchir une paroi de 50 ou de 100 mètres rocheuse, eh bien là il y aura une limite physique qui va stopper, en tout cas temporairement, la dispersion en altitude.
Jean-Paul Touria, vous êtes le directeur du Jardin botanique Floral Page Champélac. Cette exposition s'était ouverte hier jusqu'au 15 octobre. On va en parler dans un instant. Les arbres en marche et aussi de comment vous êtes arrivé à Champé et à étudier la phytogéographie. Vous êtes dans Altitude, 17h14. On va écouter la reine ou le roi, King of the Mountain, Kate Bush. King of the Mountains, c'est bien sûr la sublime, je pèse mes mots, Kate Bush, sur l'album Aerial 2005. Ça va bien avec l'ambiance qui se dégage aussi du thème de cette émission, les forêts, le changement climatique, King of the Mountain. Moi, j'imagine que c'est un bel Harold, le roi de la montagne, vers 2500, 2600 mètres d'altitude. Quel est le record pour un arbre, Jean-Paul Teuria, en Suisse? C'est au-delà de 2500 mètres?
Alors oui, mais bon, il faut s'entendre aussi par ce qu'on appelle un arbre.
Oui, c'est une question de taille, dirait l'autre.
C'est une question de taille.
C'est quoi, voilà. 50 cm, 40 cm?
Alors, on commence de compter à partir de 50 cm, et puis on peut aller de 50 cm à plus ou moins 2 mètres. Ça, c'est une première catégorie. Après, de 2 mètres à 8 mètres, on va dire, 6-8 mètres. Et ça, ce serait une deuxième catégorie, ce serait en quelque sorte des sous-arbres, quoi. Et puis, alors, en dessus de 7-8 mètres, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle des arbres.
Mais l'arbre, alors, le plus haut que vous avez découvert, c'est un arôle.
Alors, c'est un arôle, il mesure à peu près 1,5 mètre de haut.
On est bon.
On est bon, alors, et il pousse à 2795 mètres d'altitude.
Au-dessus de Champé.
Au-dessus de Champé.
Dans le Val d'Arpète, pour ceux qui connaissent.
Dans le Val d'Arpète, exactement.
Vous l'avez repéré comment?
Au clocher d'Arpète.
Au clocher d'Arpète.
Au clocher d'Arpète.
Vous connaissez ça,
juste,
François, les clochers
juste
d'Arpète.
Sous les clochers d'Arpète, oui. Je l'ai repéré cette zone, en fait, a été une zone d'étude dans les années 1990, dans le cadre du programme prioritaire environnement. Et on a fait des relevés, des recensements. Des observations sur la flore qui existait dans cette région, puis en parcourant cet endroit, on a découvert les arôles, et puis j'y suis retourné il y a une dizaine d'années, et puis en fait ces arôles sont toujours là, ils ont même grandi un peu.
Et donc ils sont bien, ça c'est aussi l'effet du réchauffement?
Alors ça, je pense que c'est effectivement l'effet du réchauffement. En fait, c'est peut-être plus subtil que ça. Au niveau quantitatif, c'est sans aucun doute l'effet du réchauffement, parce qu'en fait, on peut montrer, quand on analyse l'âge de ces jeunes arbres, en faisant un petit carottage à la base, on peut facilement montrer que lorsque l'on s'élève, eh bien, en moyenne, l'âge est toujours plus jeunes. Donc ils sont toujours plus jeunes, et puis depuis la limite supérieure de la forêt à 2200, 2300 mètres, eh bien, progressivement, on a des arbres qui sont toujours plus jeunes. Par contre, qualitativement, ce n'est pas nécessairement le cas, parce qu'en fait, le fait qui m'a amené à étudier cet aspect-là à la fin des années 1990, eh bien, c'est que on avait trouvé un individu à 2500 mètres à peu près, et puis on a pris une carotte, et puis on a regardé comme ça cette carotte pour se dire, mais en fait c'est intéressant, quel âge est-ce qu'il a? Et cet arbre, en fait, on avait estimé qu'il était là depuis 1830 et quelque chose. Donc 1830, il n'y avait pas encore de changement climatique, on était en plein dans le petit âge glaciaire.
C'est la fin du petit âge glaciaire. Les glaciers avançaient encore pour 10-15 ans.
Les glaciers avançaient encore, ils ont avancé jusque dans les années 1850-1860. Donc en fait, c'est pas une question uniquement de climat. C'est-à-dire que cet arbre, il avait été transporté là par un casse-noix, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre possibilité. Il avait réussi à se développer et à se maintenir à cet endroit. Et étonnamment, en fait, jusqu'à en fait ce qu'on découvre les arbres en fait aux altitudes de 1800 mètres, également dans le Val d'Arpète, dans les années 1900, fin des années 1940, 1950, je ne sais plus exactement la date, eh bien, l'ancien jardinier du jardin alpin, qui était aussi un alpiniste, a découvert dans une suite rocheuse d'aiguilles qui s'appelle les Écandies, a découvert des arôles, enfin un arôle qui mesurait aussi environ 1,5 mètre de haut, à 2850 mètres.
Et ça, c'est pas les années 2000, c'est bien avant.
Et donc ça, c'est bien avant. Donc en fait, qualitativement parlant, l'arôle peut survivre à des endroits très particuliers, au-dessus de la limite de la forêt. Maintenant, ce qui se passe avec le réchauffement climatique, c'est qu'il y a de plus en plus d'individus qui ont cette possibilité.
C'est une question de nombre.
Et donc, c'est une question de nombre.
Mais est-ce qu'on verra de la forêt comme dans les Andes, dans le nord des Andes, ou comme en Himalaya, où elle pousse jusqu'à 4000 mètres d'altitude? Parce que c'est vrai qu'on parlait des glaciers tout à l'heure. C'est spectaculaire, un glacier qui fond, et Dieu sait que ça va vite, et Dieu sait qu'on peut l'observer, à vue d'homme. Et on se souvient tous du, pas très loin du glacier du Trien, il y a 30 ans, et maintenant. Bon, ce sera pas tout à fait la même vitesse pour les forêts, mais au fond, dans 100 ans, 150 ans, 200 ans, est-ce qu'on verra des forêts à 3000 mètres en Suisse?
Alors, à 3000 mètres, dans 200, je ne sais pas. Mais on peut imaginer à 2700, 2800 mètres.
Ouais, donc pas très loin de 3000 mètres. Quand même.
C'est envisageable, en fait. Parce que si on prend les études, en fait, l'évolution de la végétation, de la distribution des arbres dans le passé, à la fin de la dernière glaciation, le réchauffement, en fait, il y a eu une période de réchauffement très brusque, de 4 à 6 degrés environ, sur une période de 200 ans. Et à ce moment-là, la limite de la forêt, qui était formée d'arôles, essentiellement, eh bien, s'est élevée de plusieurs centaines de mètres en l'espace de deux siècles.
Deux siècles. Dans votre exposition à Champey, les arbres en marche, qu'est-ce que vous montrez? Vous faites de la pédagogie aussi, parce qu'on sait que les écoles vont vous visiter. La nature du message est de type alarmiste ou pas?
Nous n'essayons pas d'être, nous ne voulons pas être alarmistes, mais en fait, nous voudrions donner des clés de compréhension, en fait, du phénomène. C'est ça notre but. C'est d'apprendre, en quelque sorte, on pourrait dire un peu le baba de l'écologie. C'est pourquoi, en fait, quand on parle d'un demi-degré de différence de température ou d'un degré de différence de température moyenne, pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, bon, aujourd'hui, il fait peut-être pas très chaud. Ben, apparemment, on nous annonce de la neige très prochainement.
Ils l'ont annoncé au bulletin d'avant.
Hein, voilà. Donc, on a dans la vie courante, quotidienne, en fait, des fluctuations de température qui sont de l'ordre de 10 degrés facilement. Suffit de penser, en fait, entre le jour et la nuit ou comme ça. Mais il s'agit de moyenne. Et en fait, un demi degré en moyenne, eh bien, au niveau climatique, ça correspond soit à une élévation de 100 mètres en altitude, soit à un déplacement en latitude de 100 kilomètres, grosso modo. Donc, c'est pas négligeable. Quand on augmente la température de 2 degrés, eh bien, ça veut dire qu'on va se déplacer en altitude d'environ 300, 350 mètres et qu'on va se déplacer vers le nord d'environ 350.
Ça, c'est facile à comprendre. Pour un écolier, j'ai envie
pour
de dire, qui va venir vous visiter,
comprendre.
C'est une règle assez
voilà.
Simple.
Et en fait, quand on commence à comprendre ça, alors à ce moment-là, on peut commencer aussi à comprendre que, ben, effectivement, un demi degré en plus ou en moins, ouais, c'est important. Et puis surtout, si ce demi degré, en fait, on l'atteint en l'espace de 10 ans, et puis que les 10 années suivantes, il y aura encore un demi degré, et les 10 années suivantes, il y aura encore un demi degré. Donc ça va vite.
Vous, en préparant cette émission, vous disiez même, Jean-Paul Thuriac, que vous souhaitiez que l'écologie soit enseignée dans les écoles, enfin, comme matière à part entière.
Je pense qu'en fait, il est nécessaire actuellement, de la même manière en fait que on enseigne des éléments de biologie, de géographie, eh bien que au niveau de la biologie, d'histoire, eh bien que l'on s'attelle en fait à enseigner des éléments en fait d'écologie, de ce qu'on appelle la macroécologie, les systèmes, les grands systèmes. Parce que, en fait, on en a besoin, je pense, maintenant au niveau sociétal pour comprendre les changements qui sont en cours.
Quel est votre rapport aux arbres? C'est quoi un arbre pour vous?
Un arbre, ben, c'est d'abord un être vivant. Donc, c'est quelque chose, en fait, de très intéressant. Il y a, en fait, oui.
Il y a quelque chose de spirituel, ça va jusqu'à cette altitude-là?
Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est quelque chose de spirituel, mais il y a un certain respect. C'est un être en fait. Il est peut-être pas doué de la même conscience que moi, mais c'est un être vivant. Et je pense en fait que tout être vivant a sa place et a droit à l'existence en fait.
Jean-Paul Thoria, les hautes montagnes et les glaciers, ça vous parle? Vous y allez parfois aussi?
Oui, je ne suis pas un alpiniste, je suis pas un grimpeur, mais en fait j'aime la montagne. J'habite en fait dans une région de montagne et j'aime beaucoup cet endroit. C'est clair qu'en fait.
Parce qu'on va y aller là. Hein,
oui,
dans
oui.
Un instant.
Alors je ne sais pas si c'est la montagne qui m'a attiré ou si j'ai été attiré par la montagne, par les fleurs, par la botanique. Mais c'est vrai que je pense que par la botanique, j'ai été fasciné par la montagne, par la diversité, par le fait que en fait sur de très courte distance, en changeant de géologie, en changeant d'exposition, on a des différences extraordinaires et en fait on trouve de nouvelles espèces et c'est un monde en fait fascinant.
Eh ben on va y plonger pour aller découvrir quelqu'un qui n'était pas forcément montagnard à la base. Les hautes montagnes et les glaciers sont pourtant devenus son domaine à lui. Lui, c'est Thomas Crowell, c'est un photographe d'origine belge, établi en Suisse depuis une petite dizaine d'années. Et c'est ici qu'il a découvert sa passion, la montagne et la photographie aussi en même temps. Depuis, il s'est fait un nom dans le métier. Il est celui qui tire le portrait des montagnes en noir et blanc, souvent après le mauvais temps ou lorsqu'il y a beaucoup de vent, lorsqu'il y a une grosse ambiance, comme il aime à le dire. Il faut d'ailleurs voir ces photos du Cervin ou du Mont Rose en grand format qui nous donne à sentir cette montagne aussi belle qu'inquiétante. Nous l'avons suivi il y a quelques semaines, c'était sur les hauteurs de Zermatt, une de ses régions de prédilection, à la recherche de cette grosse ambiance qui finira d'ailleurs par se produire comme un appel. Ce sera sur les flancs du Liscam avant de rejoindre le pied du Mont Rose à ski. On s'arrête tout d'abord sur la terrasse de la station Trockenersteg à environ 2900 mètres d'altitude, là où le Liscam nous enverra dans quelques instants son premier signal.
Bienvenue au paradis. Nous sommes face au Breithorn. On peut constater que la neige de ces derniers jours a vraiment bien plâtré la face. C'est vraiment très, très joli et intéressant. Je te propose qu'on avance un peu plus pour découvrir le massif du Mont Rose. Ma marque de fabrique, c'est vraiment être là au bon moment, juste après la tempête, quand ça se dégage. C'est vraiment ce qui me plaît le plus, redécouvrir les montagnes une fois qu'elles ont été redessinées par la nature et les éléments tels que la neige ou la pluie.
Un mot sur ton matériel, qu'est-ce que c'est ?
Bon, c'est un appareil photo numérique, on va dire. C'est un peu un outil comme un peintre aurait un pinceau. La seule précision que je pourrais dire, c'est que je travaille beaucoup avec des téléobjectifs pour aller vraiment chercher les détails dans les paysages. Je suis moins fan des cartes postales où justement on essaye d'englober sur une seule image tout le paysage. J'aime beaucoup regarder une avalanche dans le Liscam.
Ah oui, ça voilà. C'est. On était là au bon moment.
Voilà, mais après il faut le voir. C'est toujours être attentif, regarder et être à l'affût en fait.
Moi je l'avais pas vu.
Bah.
C'est une assez grosse avalanche de poudreuse.
Ouais, elle est partie d'assez haut. C'est vrai, ça a balayé toute la face.
Thomas, tu es belge d'origine. Comment tu es arrivé en Suisse, un, et deux, à la montagne, à te passionner pour cet environnement ?
Alors, je suis vraiment venu par hasard en rencontrant une personne qui vivait en Suisse et j'ai eu envie de la suivre car au final, rien ne me retenait vraiment dans mon pays. Et en arrivant à Genève, j'ai découvert le Jura et puis les montagnes avoisinantes. Je ne connaissais pas du tout ce milieu, j'avais toujours été proche de la nature car je vivais en campagne. Et j'ai voulu commencer à découvrir justement les montagnes, à voir à quoi ça ressemblait d'en haut. Puis je me suis pris au jeu, j'ai commencé à aller de plus en plus et j'ai voulu porter un témoignage à mes amis restés en Belgique pour leur montrer la beauté de mon nouveau pays et puis essayer de les faire venir me voir. Je suis très attiré par la neige en fait qui en Belgique on la voyait une fois ou deux par année et puis ça durait moins de 24 heures. Donc là, le fait de même en été voir des glaciers et de la neige, c'était vraiment quelque chose d'intrigant pour moi. Voilà, c'est comme ça que ça m'a amené à découvrir les cabanes, ensuite les sommets. Et puis j'évolue dans ma photographie et puis dans mes activités en montagne également d'année en année.
Bon, ici on est au pied du glacier du Gorner, enfin juste avant la gorge terminale. Donc on va remonter tout ça, quelques heures de ski.
Un petit faux plat sympathique jusqu'à la cabane. Puis on aura tout le long la face est du Cervin dans notre dos. Donc on se retournera certainement souvent.
On y va.
On va brasser. Parce que là, il y en a jusqu'à la moitié du tibia presque.
Oh, t'es content qu'il y ait de la neige, c'est bon pour un photographe qui aime le mauvais temps.
Bah oui, moi j'aime la neige sur la montagne, pas en bas de la montagne. Ouais, là, il commence à avoir de la grosse ambiance sur l'ISCAM. Hein.
Ça veut dire quoi, grosse ambiance pour un photographe?
Pour moi, je peux essayer de te décrire ce que je ressens. Ah, tu vois, il y a du vent sur la face, il y a de la neige qui est soulevée d'un peu partout. Là, il y a des lenticulaires qui commencent à couvrir. Moi, je ressens là que c'est un gros morceau, que cette montagne a l'air inatteignable. J'ai envie de dire qu'elle fait partie du divin, enfin du sacré.
Ah, le mot est lâché.
Bah, quand même, ces montagnes ici, elles sont un peu surréelles. Enfin, c'est pas des petites montagnes avec... la verdure dessus, c'est des glaciers suspendus, des faces nord de 1000 mètres, c'est très impressionnant. Alors je sais pas si c'est parce que je viens du plat pays que ça me fait cet effet, mais je pense que ça laisse pas les gens quand même indifférents. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est la montagne qui dit « personne viendra me voir aujourd'hui ». Après, c'est mon ressenti. Et c'est également pour ça que j'ai pas forcément envie d'aller là-haut trop vite. J'ai envie de garder ce mystère entre moi et la montagne et garder cette impression d'inaccessibilité.
C'est quoi l'œil du photographe? Est-ce qu'il existe?
C'est vrai qu'on dit toujours l'œil. Moi, j'ai plutôt envie de dire le cœur du photographe. Car ce que je photographie, c'est ce que je ressens. Certes, il faut avoir une bonne vue et être... visuellement au taquet pour tout le temps observer, mais après on peut voir des choses et pas la ressentir et pas la photographier.
C'est super beau.
Mais c'est vraiment là qu'il faudra shooter, parce qu'après quand on sera à la cabane, on sera trop proche de la montagne et on aura trop l'impression qu'elle nous écrase. Là on a encore assez de distance pour vraiment apprécier sa grandeur.
Mais tout le monde est photographe maintenant avec un smartphone dans la poche.
Je photographie moi-même au smartphone, mais pour moi c'est un autre type de photographie.
Le fait que tout le monde puisse faire une photo facilement, est-ce que c'est de la concurrence?
Ça augmente les chances, les probabilités que quelqu'un fasse une super photo, alors qu'avant les gens n'avaient pas d'appareil photo. Mais après, pour mon type de photographie, actuellement ça demande encore de porter... du matériel assez lourd. Je pense que les masses, elles veulent juste prendre une photo souvenir. J'étais là, je prends mon selfie. D'ailleurs, on peut regarder ce qui passe sur les réseaux sociaux. Il faut regarder hashtag GornerGrat. Je pense que tout le monde fait la même photo. J'ai envie de dire que le secret pour une bonne photo, c'est d'être sur le terrain. Et essayer, tenter des nouvelles choses. Être ouvert.
Et ce choix du noir-blanc, pourquoi?
Le noir et blanc permet de sentir les émotions. Que la couleur va nous faire travailler le cerveau dans d'autres directions. La photographie comme ça permet d'aller direct à l'essentiel. Vous voyez, moi, ça me permet à retranscrire vraiment ce que je ressens. La couleur étant peut-être un peu surfait pour moi. Je suis pas forcément toujours en noir et blanc, mais parfois une légère teinte... permet également d'apporter quelque chose à l'image, peut-être même de la douceur. La montagne doit toujours impressionner, mais elle doit quand même attirer également. J'essaye de la transformer en bijou.
Quelles sont tes lectures? Quels sont les grands alpinistes que tu as lus et qui t'ont inspiré?
Moi, j'aime beaucoup Les Conquérants d'Inutiles.
Lionel Terray.
Exactement. Quand on lit ce qu'eux faisaient, c'est vraiment un autre monde, celui qu'on vit avec les vêtements ultra légers, tout le matos facile. Ils étaient là à planter des clous sans savoir s'ils allaient passer.
Mais cela dit, on peut transposer ça aux photographes, parce que les premiers photographes de montagne au 19e siècle transportaient un matériel très 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 lourd. C'était aussi des héros.
Tout à fait, mais je pense qu'ils se cantonnaient aux voies faciles, aux voies dites normales. Mais je pense que moi, ce que j'attends, c'est vraiment l'allègement du matériel. Parfois, j'ai envie d'être comme les gens entre guillemets normaux qui vont en montagne. Ils vont le jour où il fait grand beau, c'est des super conditions. Ils vont avec un sac vide jusqu'à la cabane. Là, ils achètent leur nourriture, ils n'ont rien dû porter. Et puis, c'est que du plaisir. Après, moi aussi, c'est que du plaisir. Mais c'est vrai qu'on est un peu plus lourd. Puis là, il y a un mètre de neige et j'arrive pas à passer le truc.
Oui, il y a de la neige. Allez, courage.
Ouais, j'ai pas la cale.
Ouais, on est juste sous la cabane du Mont-Rose. Encore un petit bout. Arrivé à la cabane Mont-Rose. Après avoir, il faut bien le dire, brassé dans des mètres de neige. Sur la terrasse de la cabane Mont-Rose, avec les choucas qui nous survolent. Et on entend tout au loin le bruit des moraines qui s'écroulent peu à peu, tellement il fait chaud, les blocs de pierre tombent, n'arrêtent pas. Bon, là, c'est pas mal pour un photographe ici, Thomas.
Ah, l'endroit est plutôt plaisant. C'est vraiment un beau panorama avec des montagnes qui me tiennent fort à cœur.
Tu connais le nom de toutes les montagnes là qui sont autour de nous?
À force de les photographier, j'ai mémorisé.
Alors, tout l'heure. Dans l'ordre, en face, c'est facile. Hein. Le Cervin.
Ah ouais, mais à gauche, il y a la Dendérin.
Ouais,
on voit juste la pointe. Ensuite, on a la Tête Blanche. Puis on voit la Dent Blanche, avec la pointe de Zinal juste devant. Ensuite, le Mont Durand, en fait, qu'on ne reconnaît pas trop d'ici.
Qui est moins célèbre.
Ouais, mais du côté du Val d'Anivier, il est vraiment beau, tout en glace. Là, c'est vrai qu'il a un autre visage, comme toutes les montagnes. Ils ont toujours une face plus jolie. Ensuite, l'Auberg à Bellorn est également plus réputé pour son autre côté, le Val d'Anivier. Puis on a le Triftorn, et ensuite l'arête là, qui mène au Tindalrotorn. On voit un peu le dessus du Chaliorn et le Weisshorn tout au fond. Puis nous avons également ce magnifique glacier du Gorner en premier plan, qui rend vraiment l'endroit splendide et... Et pour être venu par là, on se rend compte que c'est très grand quand même, car on a mis combien de temps?
3 heures.
3 heures, voilà.
Là, nous sommes de nouveau devant le Liskam. On a l'impression qu'il est redevenu très très calme, hein, pas d'une heure à l'autre. Ça fait quand même un moment qu'on est arrivé, mais c'est plus du tout la même montagne.
On a vraiment eu beaucoup de chance là tout à l'heure, car comme par hasard, si hasard existe, juste au moment où...
C'est de nouveau un coup du divin.
C'est une très bonne question. C'est vrai que là, juste au moment où l'angle se dégageait sur l'ISCAM, c'est à ce moment-là qu'il y a eu une grosse ambiance comme j'apprécie qui est apparue. Une demi-heure après, c'était terminé. Moi je chasse un peu la tempête, et le moment où la tempête s'arrête, comment être au bon endroit au bon moment? C'est vrai que j'ai l'impression que ça demande une grande maturité quand même. Artistique de se dire on voit cet endroit et si quelque chose doit se passer, ça se passera. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, car on était synchronisés avec le moment vraiment intéressant de la journée. Hasard ou pas, c'est la question qui restera libre, ouverte. Voilà, c'est vraiment les crevasses qui m'inspirent. Et là, maintenant, elles sont dans l'ombre. Du coup, on voit la lumière qui se reflète différemment dessus. Avec le téléobjectif, on arrive à sortir des chouettes détails, justement des gros blocs de glace qui nous semblent éternels, mais...
Il faut se dépêcher.
Exactement.
Et nous voici de retour au petit matin. Il n'est même pas 6 heures. Au lever à la cabane du Mont-Rose, le servant est toujours là. Et Thomas aussi. Comment ça va, Thomas, ce matin ?
Alors écoute, il fait un peu frais aujourd'hui, Simon.
Je confirme.
Mais c'est toujours aussi beau, comme tu disais.
Ton appareil photo qui est posé sur la table, là, qu'est-ce que tu es en train de faire ?
Vu que haute montagne, c'est toujours délicat de se charger avec le trépied et plein de matériel. Là, je me débrouille pour fabriquer un petit trépied pour essayer de faire des longues expositions, vu qu'il fait encore très sombre. Donc ça ne me permet pas de faire des images à main levée, j'ai besoin d'un support stable. Et là, j'essaye quelques expositions sur le Cervin. Et y a quelques nuages qui arrivent de l'Italie qui, comment dire, masquent un peu sa base. Et ça peut donner une image assez aérienne si j'arrive à capturer le bon moment, si les nuages continuent un peu à avancer.
Tu sais combien de photos du Cervin tu as déjà prises ?
Réussies ou juste...
Prises ?
Prise des milliers, je pense. Allez, acceptable, une centaine, vraiment très bonne. Allez, disons exceptionnelle, une dizaine. En très bonne, une trentaine. Et qui me plaisent, une cinquantaine, 70, quelque chose comme ça. Oui, pour faire une bonne image, je pense qu'il faut en faire. Pour une, il faut en faire 1000 peut-être.
Les ombres portées du Québécois Julien Sagot dans un album Bleu Jeanne ou Bleu Jane, c'est selon, sorti en 2017. On aime bien les contrastes dans Altitude, on était avec Jean-Paul Thuria qu'on retrouve, on parlait de la verdure, on parlait des arbres et du réchauffement climatique, puis nous étions avec Thomas Crowells, le photographe, sur les glaciers des hauts de Zermatt dans un reportage réalisé par Jean-Daniel Mottet, qu'on salue au passage. Avec une petite erreur que vous avez notée à l'écoute de ma part, j'ai parlé de chouka par rapport aux oiseaux qui nous survolaient sur la terrasse de la cabane Mont-Rose, et je me suis complètement planté. Ce sont des chocards, bien sûr, Jean-Paul Thuria.
Oui,
pas la même chose.
Pas tout à fait la même chose. Le chouka des tours, On le trouve en fait en basse altitude, dans les villes. Et puis le choca, avec son bec jaune, eh bien, lui est un oiseau en fait de l'étage subalpin, alpin, donc en fait de haute altitude.
Ouais, vous êtes biologiste aussi, donc vous connaissez les oiseaux, forcément.
Un petit peu.
Ça vous parle, ces glaces et... Bon, évidemment, parce qu'il y a aussi question de réchauffement climatique, c'est clair qu'on ne peut pas ne pas le constater, glacier du Gorner, la cabane Montrose, quand elle a été construite il y a plus d'un siècle, était juste au-dessus du glacier, maintenant il est beaucoup, beaucoup en dessous. Vous êtes inquiet aussi quand vous constatez ce genre de choses ?
Oui, en fait, quelque part, c'est inexorable. On pourra dire, en fait, que par le passé, ça a déjà eu lieu. Quand on pense que on passait le col du Théodule pour aller en fait du Valais au Val d'Ost, il y a eu des périodes en fait où les glaciers étaient au moins aussi réduits, voire plus réduits qu'à l'heure actuelle.
Mais ça s'est passé dans un laps de temps beaucoup plus
mais ça s'est
moins
passé
rapide.
dans un laps de temps moins rapide, et surtout en fait il y avait beaucoup moins de monde en fait sur cette terre, et les conséquences en fait de changements climatiques, eh bien, n'étaient pas tout à fait les mêmes. Il faut quand même penser que chaque fois qu'il y a eu un changement climatique, ça a eu un impact au niveau des civilisations, donc des sociétés. Changement climatique et changement au niveau de société. Et sont très liés en fait.
Oui. Et là, l'impact, il est autant pour la santé que pour effectivement l'agriculture, les espèces, la biodiversité. Ouais. Tout ça nous impacte fortement. Mais la prise de conscience n'est pas assez grande, selon vous. C'est aussi le message que vous voulez faire passer.
Oui, en fait, il faudrait une prise de conscience maintenant très très rapide, parce qu'en fait, il faut vraiment agir rapidement. Et pour revenir en fait à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que quand il y avait beaucoup moins de monde, eh bien, quand le permafrost fondait, permafrost
on s'en rendait pas compte.
Qui tenait les montagnes ensemble, on s'en rendait pas très bien compte en fait, et ça n'avait pas les mêmes conséquences qu'actuellement. Mais maintenant, s'il y a un pont de montagne, comme ce qui s'est passé dans les Grisons, s'effondre,
ouais.
Eh bien, effectivement, ça a des conséquences. Importante.
François Modou, vous êtes notre chroniqueur du jour. On va parler de peur et on pourra revenir sur la notion de peur, peut-être aussi liée au réchauffement, qui sait, Jean-Paul Thuria. Vous avez lu cet essai pour Altitude, François, qui traite donc de la peur, pas n'importe quelle peur, la peur choisie, pas subie, celle que des femmes et des hommes décident de vivre au quotidien, qui prennent le risque d'exposer leur vie à un danger extrême. Est-ce qu'il y a vraiment matière à faire une éloge de la peur, qui est le titre du bouquin ?
Reconnaissons à l'auteur une grande qualité. Si son sujet est la peur choisie, la peur acceptée et parfois même recherchée par les aventuriers ou les sportifs de l'extrême, Gérard Guéry réussit à élargir son sujet.
Il s'appelle Guerrier en plus, oui.
Et désireux de comprendre ce qui se trame dans les peurs choisies, il pioche dans la grande histoire de l'aventure et des explorations, il convoque montagnards et marins, plongeurs et base jumpers. Il défriche aussi des études scientifiques, il questionne des médecins, des neurologues, des psychiatres. Ses recherches sont à la hauteur de la complexité de son sujet. Et ça donne un essai foisonnant, bien documenté, riche en anecdotes et en témoignages. Un récit distancié aussi, qui bouscule certaines certitudes et des clichés. Enfin, ce que j'ai bien aimé, l'auteur évite l'écueil de la superficialité. Il ne verse pas dans la glorification gratuite de ces héros prompts à risquer leur vie juste pour une dose d'adrénaline.
On en connaît. Peut-être même en a-t-on reçu dans cette émission. Il y a tellement de manières d'avoir peur. Au fond, pourquoi est-ce qu'on se lance dans un sport extrême ? Pourquoi affronter des dangers si grands qu'on prend délibérément le risque de tout simplement perdre la vie ?
Il n'y a pas de réponse simple à cette question.
J'adore ça.
Le tribunal de l'opinion publique, lui, a déjà tranché. Mais ils sont fous. Gérard Guerrier cite d'ailleurs un alpiniste et médecin psychiatre qui déclare que le massif du Mont Blanc est un hôpital de jour. Dans le même registre, l'alpiniste Reinhold Messner, le premier homme à avoir gravi les 14 8000, déclare que pour compter dans l'élite de l'himalayisme, il faut être, je le cite, « égocentrique, asocial, invivable, fou ». Gérard Guerrier donne des exemples d'alpinistes ou de marins dont la prise de risque maximale à un moment de leur vie a eu le sens d'un appel au secours. Ils traversaient une crise affective, un drame existentiel. Mais il cite d'autres témoignages qui nuancent ou corrigent cette idée que l'exposition délibérée à un grand danger serait la manifestation d'un état dépressif ou carrément de la folie. Il insiste sur le soin de ces sportifs à tout contrôler et à tout maîtriser. Il souligne leur rationalité et l'hyper-sérieux de leur préparation. On est bien loin de comportements impulsifs, déjantés, irresponsables.
Ça renvoie un peu au refrain entonné par pas mal de sportifs de l'extrême, pas forcément des alpinistes. Faites-moi confiance, je maîtrise tout. Vous savez, je prends davantage de risques, on l'a entendu, je prends davantage de risques en prenant ma voiture entre Genève et Lausanne qu'en allant faire de l'alpinisme. Que dit l'auteur Gérard Guerrier de ces rengaines un peu rabâchées, un peu usées jusqu'à la corde, sans jeu de mots?
Là, je le trouve percutant. Pas dangereux le base jump, pas dangereux l'escalade en solo libre, sans corde ni point d'assurage, pas dangereux l'ascension d'un 8000 mètres. Gérard Guerrier aligne quelques statistiques qui donnent, il faut le dire, froid dans le dos. Des chiffres qui rappellent le sens des réalités. Prenez le base jump. Une étude a montré que, autour de 2010, il y avait un accident pour 500 sauts. Et comme ce sport ne pardonne rien, l'accident était toujours mortel. La comptabilité morbide des drames en Himalaya donne à peu près 10% de victimes parmi celles et ceux qui défient les géants de la planète.
Et dites-nous François, l'auteur, j'imagine on connaît un rayon sur les peurs choisies. Sa vie est d'ailleurs, vous me l'avez dit, une succession d'aventures, elle est pavée de drames douloureux aussi.
Oui, c'est juste. Gérard Guerrier réussit à évoquer non sans autodérision et une certaine pudeur l'intimité de quelques situations qui l'ont rendu mort de trouille. Plongeur, pilote d'aile delta, skieur de pentraide, explorateur de terres inconnues, cet homme aux passions éclectiques a frôlé la catastrophe à plusieurs reprises. Le vol libre lui a apporté les joies les plus extrêmes, mais il lui a aussi infligé la blessure la plus douloureuse, la perte de son fils aîné dans un accident de parapente. Étranglé par l'émotion, il constate « Friedman était tellement prudent jusqu'à ce jour d'hiver où une erreur lui a été fatale. »
Et ça conduit à une réflexion sur le facteur humain qui est très souvent à l'origine du drame.
En effet, Simon, on impute facilement un accident à la fatalité. En réalité, des erreurs invisibles et fortuites par définition sont souvent la cause. Pourtant, que ces erreurs soient collectives ou individuelles, il est rare que l'on s'inquiète à l'avance qu'elles pourraient se produire. C'est connu, bien souvent les erreurs sont stupides, elles surviennent avant le moment critique, que on ne s'y attend pas. Et l'auteur tire quelques leçons de ces accidents. L'excitation, un excès de motivation, la précipitation aussi, tout cela peut réduire notre champ d'observation et nous faire oublier des détails essentiels. On croit tout maîtriser, mais on se trompe et quand l'erreur se produit, ma foi, il est trop tard.
Finalement, qu'est-ce qui est déterminant dans ce parti pris de valoriser la peur choisie au point d'en dresser un éloge ?
Gérard Guerrier associe la prise de risque à la quête de l'inconnu qui est au cœur de toute exploration. Pour ça, il a cette belle image. La peur est la sœur siamoise de l'aventure. D'ailleurs, il nous renvoie à l'étymologie du mot aventure, adventura, c'est littéralement ce qui advient, ce qui doit arriver. C'est l'irruption de l'inattendu, comme lors d'une rencontre amoureuse. C'est une chose éphémère qui donne le frisson et c'est pour ça qu'on la désire tant. Traquant l'inconnu et l'exceptionnel qui se loge dans l'aventure, Gérard Guerrier y voit une explosion de sens qui se double d'une merveilleuse impression de liberté. Le voilà sans doute le puissant moteur de celles et ceux qui choisissent de vivre dangereusement.
Bah enfin, on a la réponse grâce à vous. Merci François. Éloge de la peur de Gérard Guerrier. Un essai à l'usage des aventuriers et des baroudeurs du quotidien et des autres aussi. C'est paru aux éditions Paulson et c'est préfacé par Bertrand Piccard. Vous avez peur de quoi vous, Jean-Paul Thuria?
Je sais pas. C'est difficile.
Bah, vous êtes un aventurier aussi dans votre domaine. Vous recherchez l'inconnu.
Non, on recherche pas l'inconnu. En fait, la peur, je pense, que c'est une question d'accoutumance. Alors, quand on est habitué à certaines situations, eh bien, finalement, on entre en confiance et puis on a plus tellement peur.
Le changement climatique, tiens, ça vous fait peur?
Ça me fait peur, mais ça veut pas dire que ça m'angoisse. Mais c'est vrai que ça fait peur.
Votre prochaine exposition, donc celle qui est en cours, c'est Les Arbres en Marche, et la prochaine, l'année suivante, en 2020, on peut déjà en dire un mot ?
Oui, en fait, l'année prochaine, il n'y aura pas d'exposition proprement dit, mais en fait, il y aura une exposition de sculpture, une exposition artistique dans le jardin, qui aura trait en fait au changement climatique. Donc en fait, on est en train de rechercher des artistes qui vont exprimer en fait par leur art le changement climatique.
La montagne, votre montagne à vous, question rituelle, où est-elle ?
Alors, ma montagne à moi, si on veut regarder les choses de cette manière-là, ça pourrait être la montagne intérieure, celle de la vie qu'il faut grimper jour après jour.
Et c'est pas la plus facile. Merci beaucoup, Jean-Paul Thuria, d'avoir été avec nous. Et bonne exposition durant ce printemps et cet été. Pour ceux que ça intéresse aussi, vous pouvez retrouver sur la hashtag Altitude, les réseaux sociaux, les photos magnifiques réalisées par Thomas Crowells lors de notre reportage du côté du Mont Rose. Il est en train de préparer aussi un livre de photos sur le Cervin.
Infotrafic RTS.
Sur l'axe Chiasso-Lucerne, un bouchon s'étend toujours sur 2 km entre Quinto et l'entrée sud du tunnel du Gothard en direction de Lucerne. L'attente correspondante est d'une demi-heure environ.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
Cette édition d'Altitude est terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Un grand merci à ma complice Mallory Lang qui m'a aidé à la préparer. À la technique, un salut à Thierry Châtel. À la réalisation, Jean-Daniel Mottet. À la programmation musicale, François Piton. Pas d'émission dimanche prochain pour cause de football. On se retrouve donc dans 2 semaines. Oui, c'est ça, pour un prochain Altitude.
La première vous offre l'heure.
Il est très précisément 18h.